Savez-vous que contre toute attente, 51% des illettrés ont un emploi ? Dans l'épisode précédent, j'ai voulu comprendre comment cela était possible et quels étaient les secteurs dans lesquels ce handicap était le plus répandu.
On peut citer la construction, la logistique, le transport, l'agroalimentaire, la sécurité, la propreté, des secteurs avec beaucoup de main-d'œuvre qui peuvent être concernés par le problème de l'illettrisme.
Hervé Fernandez, directeur général de l'ANELSI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.
On a une indication, les taux sont plus élevés que la moyenne nationale dans ces secteurs-là. La moyenne, c'est 7%, on peut atteindre 10-14% selon les secteurs.
Aurore Ponsonnet, formatrice en orthographe pour adultes, a côtoyé lors de ses formations en entreprise ces salariés dont l'écriture difficile trahit leurs conditions d'illettrés.
Eh bien, je constate des difficultés énormes et l'écriture peut être vraiment... je dirais d'un niveau CE2. Ça m'est arrivé de rencontrer des adultes qui écrivaient comme des enfants qui sont en train d'acquérir l'orthographe et l'écriture.
Nous avons aussi recueilli le témoignage d'un cinéaste engagé qui a rencontré des illettrés en situation d'apprentissage, illettrés qui se sont confiés à lui.
C'est des gens, souvent des hommes et des femmes, qui ont très mal vécu l'école. Hein. L'idée d'y retourner, quoi, c'est terrible, ça a été une humiliation pour eux. On s'est senti idiot quoi, à l'école, hein, comme quand on ne comprend pas.
Jean-Pierre Améris, réalisateur.
Et donc, il ne faut pas les reconfronter à ça, quoi. Tu ne sais pas. Quoi. Et donc, il vaut mieux recommencer, en effet, par des jeux, des images, quelque chose de léger qui permet d'approcher l'apprentissage.
Je m'appelle Marielle Lieberclair et je suis passionnée de langue française et de lecture. Ma quête, mieux comprendre l'origine et les enjeux de l'illettrisme et découvrir des solutions innovantes et inclusives pour le faire reculer. Je vous propose de me suivre dans cette exploration à la rencontre de personnalités publiques engagées, d'experts et de personnes sorties de l'illettrisme. Et maintenant, allons voir un peu du côté de l'avenir. Quelle solution face à ce fléau qu'est l'illettrisme ? Quels sont les programmes d'alphabétisation qui existent dans l'Hexagone et dans les Outre-mer ? Et à l'étranger, que se passe-t-il notamment pour les fillettes et les femmes plus facilement déscolarisées ? Bref, les initiatives actuelles nous donnent-elles le droit de rêver d'un monde où chacune et chacun serait en possession de ses savoirs de base et de l'autonomie qui va avec ? Les empêcher, immersion au pays de l'illettrisme, 5e et dernier épisode. Les empêcher. Produit par Prisma Media, avec le soutien du programme Write Your Future, Écrire Votre Avenir de Lancôme. Extrait de J'ai appris à lire à 50 ans.
C'est ainsi que la honte disparaît petit à petit. On s'entraide, on rigole même de nos erreurs. Ce groupe est une équipe dont la chef, Cathy, nous permet de transformer nos erreurs en victoires. D'autres fois, nous travaillons sur des formulaires ou papiers qu'on utilise dans notre quotidien. Fiches de paie, formulaires pour les impôts, formulaires de lettres recommandées, contrats de travail. Nous apprenons à remplir ces documents. Nous pouvons poser à Cathy toutes les questions à propos de ce qui nous bloque dans la vie quotidienne à cause de notre handicap. Nous étudions même les pictogrammes. Inflammables, danger, explosifs, tri des ordures. Rien à voir avec l'école que j'ai connue. Au contraire, c'est un régal. Non seulement je progresse chaque jour sans souffrir, mais en plus j'y prends du plaisir.
Aline Le Guluche, autrice du livre dont vous venez d'entendre un extrait, est retournée à l'école à 50 ans. Elle a non seulement pu apprendre à lire et à écrire, mais le programme qu'elle a suivi lui a également ouvert les portes d'un monde qui lui semblait totalement hermétique jusque-là, celui d'Internet. 13 millions de personnes sont de nos jours concernées par l'illectronisme, cette incapacité à utiliser les outils numériques, à faire des démarches simples sur le web. C'est bien plus que les chiffres de l'illettrisme, mais l'un nourrit l'autre. Et contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas que les seniors qui sont concernés. Hervé Fernandez, directeur général de l'ANELSI.
On aurait tort de penser que parce qu'on est plus jeune, on est plus à l'aise avec le numérique. On l'est dans des usages de la vie quotidienne, sûrement, dans la consultation des réseaux sociaux, sûrement, mais on l'est peut-être pas quand il nous manque ce bagage en lecture, écriture, pour comprendre les messages qu'on reçoit, pour aller chercher des informations qu'on peut qualifier d'enrichi, pour continuer à se former, pour discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, pour développer son sens critique. On a besoin de ce bagage en lecture et écriture.
Et comment exercer ses droits de citoyen en tant qu'illettré quand toutes les démarches, ou presque, sont aujourd'hui digitalisées?
On a montré, grâce à des études qui ont été menées par l'ODENOR à Grenoble, qui est une institution rattachée au CNRS, que l'illettrisme freine l'accès aux soins, freine l'accès aux droits, non pas parce que les personnes ne connaissent pas les droits, mais parce que les démarches leur paraissent insurmontables. Et donc, il y a un enjeu d'accès aux droits. Et donc, à l'agence, on met en place beaucoup d'initiatives pour que les conseillers de proximité, pour que les conseillers numériques, ceux qui vont accompagner les démarches dans leur, les personnes dans leur démarche d'accès aux droits, puissent être en capacité de détecter l'illettrisme, de repérer les personnes qui y sont confrontées pour mieux les orienter vers une solution de formation.
Durant les épisodes précédents, nous avons beaucoup parlé de la métropole. Mais qu'en est-il de l'illettrisme dans les DOM-TOM? Selon des données recueillies en 2019, 11,8% des jeunes de 16 à 26 ans rencontrent des difficultés dans le domaine de la lecture sur le territoire national. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ce taux atteint les 30%. L'ANELSI a décidé cette année de concentrer une partie de ses efforts auprès d'un public spécifique, avec un objectif à double détente. Pitch de ce tout nouveau programme, joliment intitulé « Familier ».
Dans les 5 régions d'outre-mer, à la rentrée de septembre, il y a des promotions de 15 jeunes mamans qui vont intégrer des parcours de formation, d'accompagnement vers la lecture et l'écriture, le calcul, grâce au numérique. Et ce programme est proposé au moment où leur enfant entre à l'école. Donc on fait l'hypothèse que parce qu'elles sont plus à l'aise avec la lecture, l'écriture, le numérique, parce qu'elles sont accompagnées aussi sur des démarches éducatives, sur des démarches culturelles, leurs enfants seront plus à l'aise aussi au moment de l'entrée dans les premiers apprentissages. Et elles-mêmes, ces jeunes mamans, seront plus à l'aise aussi dans la relation avec l'école. Donc la maîtrise de ce socle de compétences essentielles favorise vraiment cette approche-là, cette autonomie, cette émancipation, parce qu'on sait aussi que ces jeunes mamans qui vont être prises en charge pendant un an, toute l'année scolaire, vont pouvoir aussi, pendant cette période d'accompagnement, choisir une voie professionnelle, apprendre un métier et avoir plus d'autonomie sur le plan économique aussi.
Former de jeunes mamans pour qu'elles accompagnent leurs enfants scolarisés dans les apprentissages fondamentaux, c'est penser l'avenir, économique et culturel. Moi-même petite fille d'une mamie guadeloupéenne déscolarisée très tôt et qui écrivait difficilement, je mesure tout ce que ce genre d'initiative peut apporter. Si en France les hommes sont plus nombreux à souffrir d'illettrisme, à l'étranger c'est l'inverse. 17% des illettrés en moyenne à l'étranger sont des femmes, contre 10% d'hommes. En Afrique subsaharienne, le constat est encore plus alarmant. 41% de femmes illettrées pour 27% d'hommes, selon des chiffres de 2019. Une bonne raison pour Lancôme de promouvoir activement la lecture et l'écriture des fillettes et des femmes un peu partout sur le globe à travers son programme Write Your Future, écrire votre avenir. Je suis allée à la rencontre de la dirigeante de Lancôme France pour échanger avec elle sur les raisons de cet engagement de la marque. Depuis plus de 20 ans, Raphaël Brucaz travaille dans les cosmétiques au sein du groupe L'Oréal et notamment pour Lancôme pendant 4 ans en Asie. Elle a été nommée récemment à la tête de la marque à la rose. Très rapidement, le sujet de l'autonomie des femmes est au centre de nos échanges.
Le bonheur des femmes commence aussi par la maîtrise de toutes les compétences essentielles à l'autonomie et notamment leur liberté d'expression.
Et c'est aussi pour ça que c'est important pour Lancôme d'aider dans cette lutte contre l'illettrisme, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que l'illettrisme est lié à l'autonomie et notamment au développement personnel.
Des exemples de pays où Lancôme soutient des programmes de lutte contre l'illettrisme au féminin ?
On a des actions aux États-Unis, en Espagne, en Asie, soit dans des pays plutôt développés comme Hong Kong, soit dans des pays plutôt moins développés comme l'Inde ou la Thaïlande.
Et en France ?
On a vraiment trois actions, je dirais, avec Lancôme en France. La première, c'est être un partenaire de l'ANLCI, donc qui est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Nos équipes ont travaillé avec l'ANLCI pour justement développer un logiciel pour aider les femmes et les jeunes filles à apprendre à lire. La deuxième partie, le rôle qu'on se donne chez Lancôme, c'est vraiment de sensibiliser le grand public et donc de travailler main dans la main avec l'ANLCI pour faire parler du sujet. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, pendant les journées nationales contre l'illettrisme, on est partenaire avec eux en affichage outdoor en France. On les soutient dans leur, plan de communication. Le troisième volet de ce partenariat, qui est important pour nous, c'est de pouvoir donner la voix à des personnes qui peuvent être ambassadrices du programme. Et c'est là qu'intervient Aline Le Guluche, avec qui nous travaillons maintenant depuis 3 ans. Et nous sommes vraiment très, très fiers de travailler avec elle, vu son parcours, et de pouvoir soutenir son dernier livre et d'aider à faire parler de ce sujet au quotidien.
Arrivée à la tête de Lancôme France en mai 2023, Raphaël Brucaz a immédiatement été touché par ce programme caritatif dont Aline Le Guluche est le visage pour leurs actions en France.
Très vite, je suis rentrée dans le sujet. Moi, j'ai été impressionnée par Aline, par son courage, par sa force et en même temps toute la simplicité qu'elle dégage. Aline, il y a une volonté incroyable, c'est un soleil en fait. Donc moi j'ai été bluffée et je suis vraiment très contente qu'on puisse être à ses côtés pour mettre en avant sa cause, son livre.
Je lui demande de décrire Aline Le Guluche en un adjectif.
Je crois que je dirais combattante et porte-parole.
Aline vient justement de sortir son deuxième ouvrage, Mon combat contre l'illettrisme, paru chez Prisma Éditions, où elle raconte son engagement et ses rencontres avec les illettrés partout dans l'Hexagone.
Donc on a, diffusé le livre d'Aline au plus grand nombre et on est partenaire avec elle de ses conférences de presse, de ses différents déplacements. On est là pour la maquiller et la faire belle en Lancôme chaque fois qu'elle prend la parole, parce que pour nous c'est vraiment important. On a été là pour la couverture de son livre, pour le shooting de la couverture de son livre. On l'a aidé à se styler et à se maquiller, à choisir avec elle les photos, le graphisme.
Raphaël Brucaz me parle à nouveau du sens que ça a pour elle de soutenir des femmes illettrées, donc vulnérables, dans des pays moins favorisés que le nôtre.
En général, dans le monde, il y a quand même plus de femmes qui ne savent pas lire. Et du coup, dans beaucoup de pays dans le monde, ça veut dire une certaine oppression ou une certaine dépendance. Et ça, moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me gêne. Pour ça, on a de la chance de vivre en France. Pour ça, on a énormément de chance. Et moi, je suis très contente que mes filles grandissent en France et pouvoir les aider justement à s'envoler et pouvoir être autonomes. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver dans la vie. Un deuil, un divorce, vous vous retrouvez toute seule. Il y a un moment, en fait, c'est bien de pouvoir s'assumer. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne sont pas dans cette situation-là de pouvoir le faire. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je pense qu'il y a un truc... C'est important.
Après cette rencontre avec Raphaël, je suis pensive. En effet, l'illettrisme n'est pas qu'une aliénation au niveau culturel, intellectuel, mais aussi en termes d'indépendance, de liberté et d'autonomie financière. Un sujet particulièrement brûlant pour les femmes et les filles dans des endroits de la planète où elles sont traitées comme des marchandises. Pour traiter de ce sujet, qui de mieux que Claudine Monteil, présidente de l'association Femmes Monde, femme de lettres, féministe et ex-diplomate? Elle me reçoit dans son appartement parisien. D'une exquise courtoisie, elle devient néanmoins une tigresse quand il s'agit de défendre le droit des femmes, notamment le droit à s'instruire. Et pour cause, elle appartient à une lignée pour qui l'éducation des filles était primordiale. Ce qui résume son parcours de vie ?
La justice et la liberté. C'est-à-dire, c'est ce qui me porte depuis ma jeunesse.
puisque ma mère a été engagée pour les droits des femmes avant moi. Et elle était une grande scientifique et elle a beaucoup agi après Irène Joliot-Curie pour permettre aux femmes françaises d'avoir accès à l'enseignement supérieur, aux grandes écoles et à des postes où elles n'avaient pas le droit d'avoir accès. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette justice et cette liberté m'a conduite, à l'âge de 20 ans, à m'engager auprès de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi pour les droits des femmes, dans ce qu'on a appelé le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes.
C'est d'autant plus bouleversant pour elle de se rappeler, en tant qu'ex-diplomate, de la dureté de la condition féminine en Afrique de l'Est à la fin des années 90.
Aux Comores, il y avait un enthousiasme extraordinaire pour apprendre. Et les petites filles apprenaient. Et là, malheureusement, que ce soit au Kenya ou aux Comores, j'ai assisté au fait que très vite, ces petites filles qui étaient pleines d'enthousiasme, ravies, délurées, intelligentes et adorables, ces petites filles, malheureusement, quand les règles approchaient, c'est-à-dire elles avaient leurs règles entre 10 et 12 ans, et le principe du père, c'était que se débarrasser de cette bouche à nourrir et donc de la marier la seconde où elle avait ses premières règles. Et donc, c'était terminé. Elle quittait la maison, elle quittait l'école, elle tombait enceinte quasiment la première année. À 13 ans, elles avaient des accouchements, parfois dans des conditions épouvantables. Elles étaient toutes petites, leur corps était encore des corps d'enfants, même si elles avaient eu leurs règles. Et donc, on les voyait, je les croisais, parce que je suis allée pendant plusieurs années aux Comores et au Kenya, et j'essayais d'avoir de leurs nouvelles, et malheureusement, elles se fanaient. Enfin, elles étaient adorables, mais elles se fanaient. Progressivement, elles perdaient les notions de ce qu'elles avaient appris et qui leur avaient donné confiance en elles. Donc, ça a été assez douloureux. Je veux dire, j'ai fait ce que j'ai pu pour voir si on pouvait aider certaines à continuer, à ce qu'elles reprennent des études, même une fois par semaine et tout. Mais les maris ne voulaient pas.
Si on lui oppose le fait que cela a peut-être évolué dans le monde depuis 25 ans, elle parle d'un événement plus qu'inquiétant qui, lui, date du début 2023.
Eh bien, quand vous voyez ce qui se passe en Afghanistan et en Iran, c'est-à-dire deux pays où les jeunes filles et les femmes vont retomber dans l'illettrisme. Quand vous voyez qu'en Iran, on est en train d'empoisonner les lycéennes, ce sont des conservateurs religieux qui sont soupçonnés de s'être inspirés des talibans en Afghanistan pour monter des opérations contre des lycéennes dans plusieurs lycées où les parents maintenant veillent leurs propres enfants pour ne pas être empoisonnée, eh bien, des milliers de petites filles et de filles et de femmes sont en danger de retomber dans l'illettrisme par la volonté des hommes conservateurs.
Selon la BBC, 650 écolières ont été empoisonnées en Iran entre octobre 2022 et mars 2023. Le vice-ministre iranien de la Santé a bien dû reconnaître que les auteurs des exactions visaient à renvoyer les filles à la maison, puisqu'aucun empoisonnement n'a été rapporté dans les écoles de garçons. Aucune écolière n'est morte, mais plusieurs dizaines d'entre elles ont été hospitalisées, et leurs parents, très inquiets, ont envisagé de les déscolariser. Mais Claudine Monteil pointe aussi des initiatives qui sont porteuses d'espoir au niveau international.
Mais en même temps, les autorités françaises, la France, avec la Suède avant l'arrivée de l'actuel gouvernement, la Suède, le Canada et quelques autres pays, ont décidé de faire une diplomatie féministe. Vous savez que le terme diplomatie féministe, c'est un terme qui aussi engendre, qui est positif pour la lutte contre l'illettrisme. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, de la part des autorités françaises, et pas seulement françaises, il y a à peu près 10 pays.
La diplomatie féministe, un type de diplomatie encore jeune, qui existe depuis 5 ans à peine, que le Haut Conseil à l'égalité définit comme, je cite, « la politique d'un État qui place au cœur de son action extérieure l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des femmes, la solidarité avec toutes les femmes ».
J'ai côtoyé beaucoup de diplomates hommes, parce qu'il y a une majorité d'hommes. Mais j'ai côtoyé quelques diplomates hommes, français, étrangers, qui me disait d'un air très gentil, « Ah, c'est bien tout ce que vous faites pour les femmes, c'est formidable. Ah, ça me fait plaisir, je vais le raconter à ma mère, parce que vous savez, ma mère ne sait pas lire et écrire. » Et je les regarde, et je leur dis, « Mais enfin, vous, vous savez lire et écrire. » Et il ne vous est jamais venu à l'idée d'apprendre, d'aider votre maman à apprendre à lire, à écrire. Est-ce que vous vous rendez compte le cadeau que vous lui feriez? Vous trouvez normal que votre mère, qui a la chance de vous avoir, et qui vous a donné une éducation, qui vous permet d'être diplomate, elle ne mérite pas que vous lui appreniez à lire et à écrire? Eh bien, je vais vous dire, à chaque fois que j'ai dit ça à ces messieurs, ils m'ont regardé comme si j'étais complètement folle.
Pour elle, l'illettrisme est plus qu'un handicap.
C'est une forme de semi-esclavage. Pour moi, l'illettrisme, c'est une forme de semi-esclavage. La liberté commence par le fait de savoir lire et écrire, de pouvoir lire et écrire notamment. La liberté commence là. Et je dirais que c'est, quand on parle des droits humains, c'est le béaba des droits humains.
Est-elle optimiste pour l'avenir ?
Je fais confiance dans la jeune génération qui est très consciente de ces questions-là.
Et elle se dit prête à faire sa part.
En tout cas, moi, je suis ouverte, à titre personnel, à m'engager. Je suis prête à donner un peu de mon temps pour lutter contre l'illettrisme. Je trouve que c'est quelque chose de vital et un très bel engagement.
En guise de conclusion, je redonne la parole à notre personnalité fil rouge, Aline la combattante, qui parle de ses rencontres avec des personnes illettrées lors des conférences et causeries qu'elle donne. Elle se déplace beaucoup, je lui demande où elle trouve l'énergie.
J'ai l'impression que c'est ce combat qui me donne de l'énergie, parce que quand je vais voir les gens, je ne suis pas fatiguée du tout. Je peux les écouter, je peux rester avec eux, les encourager des heures durant et puis parler de leurs problèmes. Ça leur fait du bien en plus d'en parler. Moi, ça me fait du bien de les entendre.
Et quand je lui demande si elle peut encore recevoir des remarques désobligeantes, elle me répond sans détour.
Mais sachez que des personnes malveillantes, il y en a. La honte, ben, au bout d'un moment, c'est comme tout, il faut arriver à la laisser tomber. Et puis, moi, je sais que depuis que j'ai laissé tomber ce côté obscur, je marche au soleil et je me sens vraiment mieux. Et si on arrive à laisser tomber la honte, bah, c'est une porte ouverte au bonheur.
Cette immersion au contact de la réalité des personnes qui ne savent pas lire et écrire m'aura ouvert le regard sur bien des angles morts de notre société. L'éducation, le degré d'attention porté ou non à l'enfant, la violence comme exutoire à la frustration des mots qui manquent, la honte et le secret qui entoure ce handicap. Mais heureusement, nous l'avons vu, il existe des solutions. Si vous êtes en difficulté avec la lecture et l'écriture, ne restez pas seul. Des structures d'accompagnement existent qui vous accueilleront sans vous juger. Et si, dans votre entourage, vous repérez une ou des personnes concernées, faites un geste solidaire en leur donnant le numéro vert suivant. 0800 11 10 35. 0800 11 10 35. C'est avec un pincement au cœur que je termine cet épisode. Le tout dernier du podcast Les Empêchés, produit par Prisma Media, avec le soutien du programme caritatif international Write Your Future, Écrire Votre Avenir de Lancôme. Les Empêchés, immersion au pays de l'illettrisme, un podcast Prisma Media écrit et enregistré par Marielle Lieberclair, extrait du livre d'Aline Le Guluche, lu par Anne Garus, responsable éditoriale Ambre Rouvière, réalisation technique Lucas Wibo et Julien Louette, coordination Jeannie Raymond.